Locaux présente ses podcasts en ligne. Nous sommes donc avec Alex Liebert, bonjour, pour une création sonore locaux en direct du café Latitude, place de la Canourgue. Donc, cher Alex Liebert, je suis ravie de passer une heure avec toi pour parler de cinéma, de films photographiques, d'art et de la vie. Et merci d'être présente en ce jour si particulier, je crois, joyeux anniversaire, on peut le dire.
Oui, merci beaucoup.
Alors Alex, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es réalisatrice, monteuse et directrice artistique du festival parisien Les Nuits Photos. Tu as étudié le cinéma à Panthéon-Sorbonne Paris avant de te lancer dans des courts-métrages de fiction et des œuvres expérimentales. Aujourd'hui, au travers de tes films photographiques notamment, tu montres donc une esthétique mêlant des techniques issues de la fiction à une écriture documentaire. Donc, pour revenir sur tes débuts déjà, alors j'ai re-regardé Chimère, réalisé en 2006, quand même sélectionné trois fois en festival. C'était plutôt très dark. D'ailleurs, la boîte de prod à l'époque s'appelait Los Desperados. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Et aussi le court-métrage très touchant A.E. d'Anna, donc tu disais comme dans une chanson de Gainsbourg. À l'esthétique un peu jeunienne, Amélie Poulain, je trouve, sélectionnée 12 fois et primée 5 fois, que tu avais réalisé en 2009 à la mémoire de deux de tes proches disparus. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler de ces débuts, peut-être plus mélancoliques, plus dark qu'aujourd'hui ?
Oui, bah les débuts de la création, c'est moi, ça vient de l'université. Les premiers films qu'on écrit, les premiers films qu'on tourne, les premières idées qu'on a, c'est toujours des choses qui sont très inspirées par le cinéma de genre. Et donc moi, j'étais très attiré par un cinéma japonais très esthétique, très dark. J'étais très attiré par tout ce qui était psychologique, tout ce qui était schizophrénie, dédoublement de personnalité, etc. Et donc oui, les premiers films de fac, ça parle toujours un peu de suicide, de mort, de drogue, de cauchemar, etc. Et donc Chimère, et ça a été le premier film que j'ai fait en sortie d'université, et dans lequel j'ai mis en fait toutes mes influences dark, toutes mes envies d'écriture dark, etc. Et donc ça en devient quelque chose certes d'assez expérimental, parce qu'il y a un mélange d'animation, de vidéo, etc. Mais ça en reste très très dark. Après, je l'assume complètement et je le laisse sur mon site parce que c'est une partie de moi aussi, quoi.
Donc c'est un peu le bail cathartique, thérapeutique de sortie d'université.
Bah oui et non, c'est-à-dire que on s'aperçoit pas encore quand on fait ses premiers films qu'on met vraiment beaucoup beaucoup de soi dedans. Donc, j'avais pas conscience de ce phénomène cathartique d'écriture, de tournage, de montage, etc. Je m'en rends compte beaucoup plus aujourd'hui et c'est peut-être pour ça aussi que mes projets sont un peu moins dark et un peu plus engagés.
Et en 2014, justement, tu réalisais le magnifique documentaire Scars of Cambodia en collaboration avec Émilie Arfeuille à l'écriture et la photographie sur le portrait d'un Cambodgien qui porte les cicatrices du régime Khmer Rouge. Ce docu sera sélectionné dans des festivals à l'international et récompensé par de nombreux prix, dont le prix du meilleur documentaire en Italie, au Mexique, en Albanie, à Moscou. Et en 2017 aussi, le court film photographique Black Bazaar, Tilbi Vatar, qui te vaudra le prix des nouvelles écritures. Et l'année d'après, Dosta, sur les femmes tziganes, qui te fera remporter le même prix. Ces œuvres, finalement, relèvent de cette prouesse technique d'image que tu animes et de ce médium si riche du film photographique, dont nous parlerons juste après. Mais peux-tu nous dire comment tu en es arrivé à réaliser ces œuvres, à la technique si particulière et au sujet si fort, si engagé? Est-ce que ces prix aussi ont changé quelque chose à ta carrière? Est-ce que ça a été une sorte de début de la reconnaissance professionnelle?
Alors, wow, beaucoup de questions. Je reprends la première. La première, c'est en fait d'où ça me vient de vouloir expérimenter des choses avec de la photo, etc. Je pensais que je l'avais un peu découvert dans le réseau de la photo via Émilie, parce que je rencontre Émilie Arfeuille, on a fait la fac ensemble, on a fait nos premiers films ensemble, mais c'est vrai que je la recroise ensuite quelques années, 7 ans, 8 ans plus tard. Et je découvre le milieu de la photo, je découvre les photographes et me prend l'envie tout d'un coup d'utiliser des photographies dans un montage vidéo. Et je pensais que ça venait de là, en fait, pas du tout. En fait, mon premier film photographique, je l'ai fait à la fac, où c'était un cours de photo qui nous donnait comme exercice de faire un film avec des photos en s'inspirant de La Jetée de Chris Marker. film qui est pour moi majeur et qui m'a toujours influencé dans mes premières années de cinéaste. Et donc en fait, l'attrait pour le montage d'un film photographique me vient en fait depuis le tout début, et que je l'ai un peu peut-être laissé tomber pendant pas mal d'années, et que ça s'est réveillé justement avec la découverte du réseau de la photo, du monde de la photographie, et de cette sympathie que j'avais pour énormément de photographes année après année. Donc voilà, c'est là de là que me vient cette envie d'essayer de raconter différemment des histoires, en tout cas visuellement, c'est-à-dire que de servir un fond par une forme adéquate qui dans l'idéal se justifierait à 100%, plan après plan, mouvement après mouvement. Ben, voilà, je suis quand même d'une école théorique qui est celle de l'université, un peu godarienne ou godardienne, je ne sais même pas si ça se dit, mais voilà, où chaque mouvement de caméra doit être justifié, chaque plan, chaque lumière, etc. Donc moi je viens de cette école, de vouloir tout justifier. Et donc dans cette volonté vraiment d'allier le fond à la forme au maximum, m'est pris l'envie donc de m'essayer déjà dans un premier temps au mélange de photographie et de vidéo. Et donc là ça commence avec le film Scars of Cambodia, qui est un projet documentaire beaucoup plus vaste qu'un documentaire. C'est une série, c'est un livre photographique, ça se voulait être un web documentaire au départ, et au final c'est devenu un, entre guillemets, simple documentaire. Et c'est un projet d'Emily au départ, c'est-à-dire qu'en tant que photographe, elle a fait appel à moi justement pour apporter un regard vidéo, en tout cas d'essayer de réfléchir à une temporalité qui n'est pas celle de la photo, qui est très fixe, très instantanée, mais d'essayer de voir ce qui se passe dans une temporalité qui se rallonge et essayer de jouer ensuite avec ces deux temporalités. Et donc, dans le montage du film, je me suis essayé pour la première fois à mélanger photo et vidéo, et c'est quelque chose que j'ai absolument adoré. Enfin, j'ai vraiment découvert la magie que ça pouvait avoir, l'impact que ça peut créer dans un montage, d'être dans une continuité narrative d'un plan à un autre avec un bel enchaînement, un raccord, etc. Et tout d'un coup, bam, on se pose sur une photo sans mouvement, sans rien pendant quelques secondes, et cette photo nous raconte 15 milliards de fois plus de trucs que toute la séquence vidéo qui venait juste avant, qui n'était là que pour introduire cette photo-là. Enfin voilà, il y a plein d'astuces de montage que j'ai découvert petit à petit, et est venue après, ensuite, l'envie de ne faire des films que à partir de photos. L'un des premiers étant fait avec donc photographe Thil Bivatar et son projet Black Bazar, et qui a aussi pas mal, ouais, qui a eu un petit peu vécu en festival, qui a remporté des prix. Alors tu me parlais de prix reçus pour Scars of Cambodia, etc. Les prix n'ont pas changé grand chose à ma manière de penser les films, etc. Les prix ne permettent en fait que de donner une vraie visibilité à un projet que tu as envie de partager un maximum, que tu as envie de faire découvrir un maximum de regards, un maximum de personnes, notamment quand on travaille sur du documentaire. Le projet Scars of Cambodia, c'est un projet, évidemment, quand on a passé 4 ans à le faire, t'as pas envie qu'au bout de 4 ans, ce film termine sur un DVD sur ton étagère et que seule ta mère et ton petit frère le voient. T'as envie de le partager un maximum, que cette histoire soit connue, que les gens en France ou dans d'autres pays qui ne connaissent bizarrement pas encore l'histoire du Cambodge et le régime Khmer Rouge des années 70, découvrent cette part de l'histoire au travers du témoignage d'un homme. Alors après, pourquoi le film a beaucoup voyagé? C'est parce que c'est un film muet. Non pas silencieux, mais muet, en tout cas il n'y a pas de voix, tout le témoignage est fait à partir de langue des signes, enfin de signes, de langage du corps, etc. Et donc c'est là où le film s'est très très bien exporté, parce que pas besoin de le doubler, de le sous-titrer ou quoi que ce soit, et c'est vrai qu'il a eu son petit succès en tant que court-métrage un peu aux quatre coins du monde, ce qui nous a fait bien voyager et ce qui moi m'a conforté aussi dans l'envie de raconter des histoires documentaire, et d'arrêter la fiction, chose que j'avais fait depuis 10 ans déjà. Et je me rendais compte qu'en fait, les histoires de personnes que je rencontrais dans la vraie vie étaient largement plus passionnantes et intéressantes que celles que j'essayais d'écrire dans mes films de fiction.
Lors de la rencontre sur les métiers du son à l'altropisme à laquelle tu étais invité, tu nous parlais de l'importance du son, de la création sonore dans le film photographique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment est-ce que tu l'envisages, cette pratique du son, voilà, comme un musicien, une musicienne, comment tu l'envisages, comme vraiment une créatrice, comme une podcasteuse, etc.
Moi, le son, j'y connais rien du tout. Enfin, j'y connaissais rien du tout, donc j'ai commencé à m'intéresser au son via le montage de films photographiques et cette contrainte de devoir créer du son. Alors, contrainte, le mot est peut-être mal choisi parce qu'il a une connotation très négative, mais bon, il fallait que je crée des sons, que j'aille chercher des sons et que je m'essaye à faire des créations sonores, chose que j'ai très rapidement adoré. Ensuite, oui, pour moi, je parle de l'indispensabilité du son dans un film photographique. Je dis même à mes étudiants que le son, c'est 51% minimum d'un film photographique. Alors bon, je suis désolé, je vais peut-être me mettre des photographes encore à dos. Mais pour moi, c'est le son qui crée l'immersion dans un film photographique. La photo, on peut s'immerger dans une photo quand elle est dans un livre, quand elle est dans un espace, dans un temps d'exposition. Parce qu'on a le temps de le faire. On a, en tant que public, on a le temps de rester 3 heures devant une photo dans un bouquin ou sur un mur si on en a envie, et de s'immerger complètement et de se créer un monde uniquement avec quelque chose de 2D présenté en face de nous. Sur une timeline vidéo, c'est pas la même chose. On se doit de choisir la temporalité de chaque photo. Et on se doit de, entre guillemets, manipuler le futur regardeur du film et de lui dire: tu vas regarder cette photo tant de secondes, tant de secondes, tant de secondes. Et si on ne met pas de son là-dessus, il ne se passe rien, malheureusement. Et ça, vous pouvez demander à n'importe qui. Je veux dire que quand on regarde un film sans le son, le film devient très chiant et au bout de 3 minutes, on sature et on arrête la télé ou on sort du ciné. Par contre, les podcasts ont cette magie de n'être que du son sans image, et il y en a, les 99% d'entre eux sont absolument passionnants et on s'immerge complètement dans un univers. Donc c'est là où la différence entre l'image et le son est quand même assez importante. Ensuite, le comment j'appréhende le son, la construction de ces créations sonores, en fait, c'est le principe du montage. Donc c'est toujours une question de dynamique, une question de rythme, c'est un peu l'écriture d'une partition, en fait. C'est-à-dire qu'on prend les photos comme un premier instrument, on prend le son comme un deuxième instrument, et on essaye de créer une dynamique, une rythmie, une arythmie, d'avoir potentiellement des choses très colorées d'un point de vue de l'image, qui vont amener une création sonore également très colorée. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez majeur, mais on peut être aussi très mineur, et donc tout doit s'accorder justement dans un même ton, sans pour autant non plus être redondant, parce qu'il y a de l'information photographique, il ne faut pas non plus l'illustrer avec un son de manière très premier degré. C'est beaucoup plus magique, en fait, d'arriver à lier un son à une image et qui n'ont rien à voir ou peu de choses à voir ensemble, et tout d'un coup de créer cette espèce de troisième dimension entre ces deux éléments qui vont nous faire voyager d'autant plus et qui vont rendre encore plus intense le sujet, le propos du projet photographique au départ.
Et justement, bon, pour revenir sur ce film photographique, c'est un médium encore peu reconnu qui mêle, comme tu l'as dit, photographie, vidéo, son et interview. Et c'est en 2021 que tu as fait renaître le festival de films photographiques Les Nuits Photos, ce festival parisien, en devenant la directrice artistique. Et donc avec Émilie Arfeuille aussi, vous œuvrez à promouvoir ce médium éminemment narratif, comme tu le disais, au même titre qu'un film, en militant pour cette appellation de film photographique. Alors j'aimerais que tu me parles de ce festival et que tu me parles aussi de ce médium. Est-ce que tu sais qui l'a inventé ? Est-ce qu'il y avait des festivals avant Les Nuits Photos qui en faisaient sa promotion ? Parce que c'est vrai que moi je suis assez novice sur ce sujet.
Alors, qui a créé le film photographique ? C'était une excellente question. Non, pour le coup, quand je faisais partie de l'association Diapéro, donc une association qui, pour le coup, promeut le film photographique, mais plus d'écriture documentaire photojournalistique, on s'intéressait justement à l'histoire du film photographique et on avait retrouvé quelques infos ici et là. Les premiers montages sonorisés dateraient des années 50. Photographe voyageur qui s'appelait Robert Tuillier, si je ne me trompe pas, qui faisait des projections sonorisées, donc avec des projecteurs diapo, etc. Ensuite, d'autres personnes se sont un peu emparées de ces idées, de cette vision de nouvelles narrations, de nouvelles manières de raconter des histoires. Après, il y a une date un peu charnière qui est la date de 1962, parce qu'il y a d'un côté le film de Chris Marker, La Jetée, qui sort, et en parallèle, il y a Kodak qui sort son Carousel, qui est une espèce de projecteur diapo automatisé. Pour revenir à Guy Muybridge qui créait ses premières animations avec des séries d'appareils photo, Donc c'est le premier stop motion, donc ça serait aussi le premier film photographique. On peut revenir même au théâtre optique, où c'était une espèce de grosse machine avec des projecteurs comme des projecteurs de diapo qui faisaient tourner sur scène comme des grands praxinoscopes et qui projetaient des films animés sur des fonds peints, etc. Donc là, ça pourrait être aussi dans l'absolu le premier film photographique. Et le théâtre optique daterait même d'avant la création du cinéma. Donc en fait, le film photographique serait potentiellement antérieur au cinéma. Attention, révélation. Mais voilà, ça c'est juste une interprétation toute personnelle de ça. Le format donc existe dans l'absolu depuis pas mal de temps. Beaucoup se le sont appropriés de plein de manières très différentes. Évidemment, ça reste. Enfin, pendant pas mal d'années, c'est surtout les photographes qui étaient intéressés par ce médium. C'était les magazines photos qui créaient un parallèle sur les réseaux, internet, etc., qui ne voulant pas mettre que de la photo, se sont aussi intéressés aux films photographiques, qu'ils appelaient autrement peut-être diaporama sonore ou petite œuvre multimédia ou d'autres termes.
Et à ce titre, tu as beaucoup travaillé avec le magazine Polka d'ailleurs.
Oui, j'ai travaillé 3 ans avec le magazine Polka. Là en ce moment, je travaille avec le magazine Fisheye Magazine. Sur d'autres projets vachement intéressants aussi. Mais voilà, mais il y a aussi des musées qui s'en emparent, des galeries. Mais c'est vrai que ça reste quand même dans le milieu de la photographie. Et il y a cette envie, moi, de mon côté, parce que je viens quand même du cinéma, cette envie derrière tout ça de vouloir quand même un peu rabibocher le monde du cinéma et le monde de la photographie, comme si c'était, comme s'ils se boudaient et que le cinéma ne voulait rien savoir du film photographique parce que ce n'était que de la photo. Et puis les photographes ne veulent pas appeler ça un film photographique parce que ce nom, ça fait cinéma, alors que ça, voilà, c'est de la photo, donc on doit appeler ça un diaporama sonore. Donc non. Ce terme film photographique, je pense qu'il a été créé, alors en tout cas la personne qui l'a utilisé en premier, en tout cas que j'ai entendu l'utiliser, c'était Nicolas Avetz qui utilisait ce terme film photographique, qui était d'ailleurs avec Guillaume Chamaillan, ils étaient les créateurs, donc c'est eux qui ont créé le festival Les Nuits Photographiques en 2011, donc la première version du festival. Et c'est vrai que quand j'avais entendu ce terme-là, je trouvais ça déjà un peu plus noble, en fait, et puis un peu plus exact. C'est-à-dire que, on a un film, on a un titre, un générique de fin, un début, un milieu, une fin, une narration qui se développe, etc., une immersion, une identification, enfin tous les codes, tous les symptômes d'un film cinématographique, on va dire. Le film photographique est un terrain d'expérimentation infinie. Et donc c'est ça, le but n'est pas de cloisonner le film photographique et de le ranger dans une petite case pour dire bon, voilà, c'est ça les règles pour faire un film photographique. Non, l'avantage de ce médium un peu singulier, c'est que c'est qu'il est complètement à l'image de notre société, qui est en perpétuelle évolution, qui peut soit d'un côté respecter des règles extrêmement conservatrices, etc., et de l'autre côté être complètement expérimental, complètement transcendantal, aucune frontière, aucune règle, rien du tout. Et moi, je suis vraiment pour ça. Genre que même si j'utilise ce terme film photographique, qui pourrait déjà faire penser à une appellation pour le ranger dans un tiroir bien proprement, il faut continuer à développer et à expérimenter en fonction de nos outils, en fonction de nos regards, en fonction des projets, en fonction de l'évolution du monde et de notre société.
C'est fou parce que j'arrive pas à ne pas faire un parallèle aussi avec le militantisme LGBTQ. On se bat pour exister et rendre visibles des catégories, pour se dire, pour se parler, pour exister à travers les mots. Et en même temps, il y a cette volonté d'assumer cette chose, d'être hors cadre, d'être hors norme, que le « à la marge » devienne la norme et qu'on ait le droit d'exister justement sans forcément rentrer dans une catégorie. Et je vois vraiment ton combat et ton militantisme pour le film photographique et pour cette appellation, cette volonté qu'il existe et qu'il soit reconnu comme tel, aussi comme cette volonté de revendiquer cette liberté et qu'on te laisse tranquille aussi avec ces catégories dans lesquelles tu ne rentres pas et que tu es OK avec ça, quoi. Donc c'est, voilà, je sais pas si le parallèle est juste, mais en tout cas, moi, je fais ce parallèle-là parce que je sens que ce militantisme et cette liberté, elle est très présente, quoi.
Si, je fais aussi le parallèle, hein, il y a des phrases que j'utilise tout autant quand je défends le film photographique et tout autant quand je présente des soirées queer. Donc c'est juste que je change un peu les termes, mais au final c'est les mêmes intentions. C'est oui, cette volonté de faire exister quelque chose de singulier, mais un peu d'invisibiliser, un peu oublié dans un coin, et lui redonner toute la beauté, en fait, pas qu'il mérite, mais qu'il est, en fait, déjà de sa propre existence. et de le mettre en avant et de le rendre visible et de promouvoir ce format ou de promouvoir cette personne ou de promouvoir cette communauté et juste d'en parler, de le faire exister, etc. Donc j'ai créé le festival Emmy Photo pour promouvoir et pour rendre beau ce format, tout comme je peux présenter une soirée queer pour militer, etc. Mais pour pareil promouvoir des choses qui sont pour moi indispensables en fait.
Et on reviendra justement sur un très beau projet que tu avais avec Emily Harfeuille pour justement militer pour la communauté queer et sa visibilité. Mais avant cela, deux belles choses que tu avais faites à Montpellier très récemment. C'était le 12 avril dernier dans le cadre d'un hors les murs du festival justement Les Nuits Photos, puisque ce festival est parisien, mais vous êtes à Montpellier, alors on a la chance d'avoir bénéficié de cet événement, puisqu'avec Emily Harfeuille, tu proposais une soirée de projection de films photographiques chez Régal, donc boulevard du Jeu de Pomme, autour du thème de l'expo photo en pleine nature. Donc tu y as montré des œuvres de 7 artistes, notamment l'impressionnant California on Fire de Jeff Frost, qui m'a vraiment fascinée et voilà, collée au sol littéralement. Et tu as ensuite proposé 2 installations vidéo, dont Anthropocène alpin, réalisé pour l'exposition photo d'Étienne Maury. Donc ici, hein, c'était vraiment, bien sûr, en lien avec l'exposition, une ode à la nature, une promotion de la protection de l'environnement, en parlant aussi d'anthropocène, donc de l'impact de l'humain sur son environnement. Est-ce que tu peux nous parler de cette soirée ? Et aussi, on a un petit peu entendu qu'il y avait l'envie de pérenniser ces soirées, peut-être une fois par mois, à Montpellier ou ailleurs, dans d'autres villes. Voilà.
Oui, oui, non, ça c'est pas un secret. Oui, ça va devenir un événement pérenne, ça c'est sûr, mais l'ambition au départ était justement de créer des soirées ou des événements qui n'étaient pas que ce week-end ou ces 3 jours de festival en novembre à Paris, mais de créer des choses qu'on dit hors les murs, donc ce soit de s'inscrire dans des festivals photo, dans des festivals de cinéma ou dans d'autres structures ou contextes, etc., pour encore une fois promouvoir dans un souci pédagogique ce format, ce médium qu'est le film photographique, de le faire connaître, de le montrer comme il est beau, sous toutes ses formes. Et donc, on a l'idée depuis assez longtemps avec Laurent Onde, donc qui est le propriétaire, le gérant, le créateur, je sais pas, enfin, de Régal, qui est un très bon ami, et on avait envie, ouais, de faire des soirées de projection. Là, c'était l'occasion. Ça a été la première occasion et l'envie, oui, de se coller à une thématique et d'essayer de la développer justement avec ce médium, donc de la développer différemment. C'est-à-dire que Laurent développe cette thématique au travers de livres, de risographies, de photos sur les murs, de tapisseries, enfin voilà, là il n'a de limite que la créativité des artistes qui peut inviter à ces expos, à ces événements. Le but est justement, de à travers cette même thématique, d'aller chercher dans le film photographique ce qui pourrait entrer en résonance avec soit la thématique, soit avec déjà les œuvres présentes sur le lieu. Donc la nature qui est une thématique depuis pas mal d'années dans tous les documentaires, même film de fiction, enfin n'importe quel art, on parle quand même de la nature depuis pas mal d'années. Je pense qu'il faudrait continuer d'en parler parce que c'est un sujet qui est, j'allais dire, indispensable. Enfin, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte là en disant que c'est un sujet important, mais vu que les choses n'avancent pas, peut-être qu'il faut le répéter. Mais donc pas mal de films photographiques qui parlaient de nature et qui ont été faits ces dernières années. La majeure partie des films qui ont été projetés à la soirée chez Régal étaient des films qui avaient déjà été projetés à la première édition des Nuits Photos. Ça, c'est aussi une ambition qu'on a, c'est de promouvoir les films récents, les films qu'on a déjà projetés, de mettre en avant les artistes qu'on a projetés au festival et qu'on a envie d'accompagner aussi à l'année, notamment ceux qui ont potentiellement reçu un ou des prix au festival Les Nuits Photos, qui va remettre des prix chaque année. Donc voilà, donc pas mal de films sur la question de la nature, de l'environnement, que ce soit sur le nucléaire, sur l'anthropocène, sur la beauté de la marche, de la randonnée, sur sur les grands incendies, les méga-feux en Californie. Donc là, il y avait deux films sur le sujet. Donc celui dont tu as parlé, mais également Paradise de Maxime Richer, qui a reçu un prix au Festival de Jeune Photo, etc., etc. Et pour finir donc sur cet événement, oui, en effet, cet événement va devenir d'une certaine manière pérenne. Il ne va pas y avoir une soirée tous les mois, une soirée tous les deux mois, mais en tout cas, l'envie de créer une soirée incluse dans chacun des événements que pourra créer Régal.
Justement, on sent cette volonté en tout cas de donner à voir, de transmettre, et cette transmission tu l'as aussi faite sous forme de formation, donc c'était à l'altropisme. Tu fais à peu près 2 formations par an, donc en création de films photographiques, donc c'est 5 jours de formation, c'est une formation qui est quand même très complète, et je me demandais comment est-ce que tu œuvres justement à la transmission de cet art. Est-ce que l'engouement pour le film photographique, est-ce que c'est plutôt des photographes ou plutôt des cinéastes qui viennent à ces formations?
Alors la transmission, elle est inhérente à ma manière de créer, mais depuis très longtemps. Donc à partir du moment où je me suis mis à faire des films photographiques, mais aussi à théoriser ce que c'était le film photographique, ça fait quoi une photo quand on la met sur une timeline vidéo, et enfin, voilà, il y a cette envie de réfléchir aussi là-dessus, d'écrire un peu sur la question et d'essayer de théoriser un petit peu. Et donc cette volonté de transmission, elle est là depuis très longtemps, et donc elle était presque évidente quand je me suis mis au film photographique de vouloir partager les choses. C'est pour ça que j'ai rapidement fait partie de l'association des apéros, que j'ai ensuite que je suis allé ensuite chez Freelance pour avec cette même manière de promouvoir de envie de pédagogie, etc. Donc ça passe par plein de choses différentes, ça passe aussi par la formation. Notamment cette formation que j'ai créée avec Illusion Macadam, qui donc s'étale sur 5 jours, alors qui n'est pas du tout une formation complète en fait. 5 jours, c'est vraiment c'est un premier jet en fait. C'est une première vision de ce qu'il est possible de faire. Si on devait vraiment faire une formation pour savoir pleinement, complètement faire un film photographique, il faudrait s'intéresser au montage, donc s'intéresser aux outils, logiciels de montage, il faudrait s'intéresser au son, donc s'intéresser aux outils de création sonore, aux outils de mixage sonore. Donc là, c'est 2 semaines pour le montage, c'est 2 semaines pour le son, c'est une semaine pour ci, une semaine pour ça, et donc une formation complète, c'est un peu impossible. Donc là, en 5 jours, ce qui est compliqué, c'est justement d'arriver à faire comprendre d'un point de vue et théorique et pratique que le film photographique est une excellente manière pour raconter une histoire pour un photographe ou une photographe. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, il n'y a pas que les photographes qui sont intéressés par le film photographique. J'ai déjà eu d'autres artistes, mais de d'autres écritures, d'autres arts même, qui voulaient tout d'un coup s'essayer au film photographique parce qu'ils y voyaient une nouvelle manière de raconter une histoire, une nouvelle manière de mélanger plusieurs arts et de faire quelque chose. J'ai aussi une monteuse qui est pour le coup spécialiste du montage et qui s'est intéressée à la photographie, justement au montage de photographie. Donc voilà, plein de profils vraiment très différents qui viennent du cinéma, de la photo ou des autres arts. Donc ça devient d'autant plus passionnant de s'adapter ensuite à ces personnes, à leur vision, pour savoir comment leur apprendre à comprendre le film photographique. Après, moi, je donne aussi des cours dans une école de direction artistique, aussi sur le film photographique. Je donne des cours à la fac aussi, à l'université de cinéma de Paul Valéry, des licences de cinéma de Paul Valéry. Là, c'est encore une toute autre manière d'appréhender les choses. Mais ça nourrit tout ça, et ça nourrit justement le côté expérimental du film photographique. Parce que quand on demande à 30 élèves, 30 étudiants de faire un film, on se retrouve avec 30 manières différentes de raconter la même histoire, et c'est assez chouette.
Et justement, après avoir parlé de cette belle transmission, moi je voudrais revenir sur un grand projet très engagé, un projet transmédia qui mêlait donc photographie et vidéo, que tu as réalisé en binôme avec le photographe Michel Slomka. C'était donc le documentaire Sinjar, naissance des fantômes, qui est sorti je crois en 2021 et donc déjà primé du Grand Prix du jury au 20e Escale Documentaire. On ne reviendra pas sur le prix, mais ça interroge la condition présente des yézidis de Sinjar, donc en Irak, victime de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors de l'invasion de l'Irak par le groupe État islamique. Donc on rappelle qu'il y a encore 3000 yézidis qui sont encore entre leurs mains ou portés disparus. Donc Comment est né ce grand projet? Comment est-ce que tu l'as vécu? C'est quand même un sujet vraiment extrêmement dramatique. On le sent même dans le teaser de ton documentaire. J'espère un jour pouvoir le voir. En tout cas, il a l'air complètement fascinant et éprouvant aussi.
Ouais, alors là, on pourrait en parler 3 heures de ce film, clairement, vu que c'est ce film, c'est quand même 5 ans de ma vie. En gros, ce projet a commencé fin 2015, a germé fin 2015. Donc, c'est 5 ans de création. Mais en fait, ce film, j'attends toujours qu'il soit vu, qu'il sorte. Donc, ce film est encore une bonne partie de mon esprit et de ma vie de tous les jours. Comment est né ce projet? Déjà avec la rencontre avec Michel Slomka, qui est un photographe qui faisait partie de la même agence que moi au départ, qui était l'agence Hans Luca, ou le studio Hans Luca, je ne sais plus trop comment il s'appelle maintenant. On s'est rencontrés en fait une semaine après les attentats à Paris. Moi j'habitais à Paris à l'époque, lui habitait à Paris aussi, et on s'est croisé au détour d'une rue où moi, il me prenait l'envie de filmer. Il fallait que je filme quelque chose ce soir-là, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais il fallait que je filme un truc. Et en fait, lui-même avait cette même envie. Ça faisait une semaine qu'il tournait chez lui, qu'il ne savait pas quoi faire, et que là, il est sorti une semaine après avec cette envie de faire des photos, de vouloir faire des photos. Donc on s'est croisé ce soir-là. On a sympathisé évidemment, on s'est rencontrés, etc. Et il a fait des photos vachement intéressantes. Moi, j'ai fait des petits courts-métrages documentaires aussi qu'ont pas mal tourné derrière, intéressants, mais qui m'ont moins permis aussi d'extérioriser quelque chose par rapport à cet événement. À force de discuter de nos projets, on s'est rendu compte qu'on travaillait sur la même thématique, notamment la thématique de la mémoire. Comment la mémoire se construit, se déconstruit, se dégénère au travers du temps, se modifie en écrivant l'histoire. C'est quoi une mémoire familiale, une mémoire communautaire, une mémoire historique, une mémoire d'un pays. Enfin voilà, la mémoire est une thématique absolument infinie. Au-delà de ça, on travaillait aussi sur des contextes un peu équivalents. Lui, il avait bossé sur la Bosnie, sur Srebrenica, ou sur le génocide juif. Moi, j'avais travaillé sur le Cambodge, le génocide Khmer. Enfin voilà, on avait une sorte d'attirance, entre guillemets, pas d'attirance, mais de questionnement sur comment on sort de ce genre d'événements ultra traumatiques, et comment on va au-delà, en fait, comment on survit de ça. De ce même questionnement, en fait, on est parti sur ce projet Sinjar, naissance des fantômes. Et en fait, en lisant au départ juste un article qui faisait référence à cette date du 13 novembre 2015, qui était donc la date des attentats parisiens, mais qui était aussi en parallèle une date plus positive, une date de victoire en Irak. En gros, c'était la date de la première victoire contre l'État islamique par les forces alliées qui étaient sur place. Ils arrivaient enfin à mettre l'État islamique aux portes d'une ville. Et donc voilà, il y avait cet effet de balance entre Paris et Sinjar, et l'Irak en tout cas, ou le Kurdistan irakien, qui était intéressant, en tout cas déjà à réfléchir. Et donc on est parti sur cette envie de faire un double documentaire, à la fois sur Paris, à la fois sur place, au Kurdistan irakien. On a vu qu'à Paris, c'était assez impossible de faire quoi que ce soit, parce que les médias se battaient à coups de milliers d'euros en cachette sous la table pour avoir le moindre petit témoignage de la personne qui aurait potentiellement survécu à ça, machin, etc. Enfin voilà, c'était pas du tout... Alors j'exagère un petit peu, mais c'était en tout cas un contexte assez, assez étrange. On n'avait pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là, évidemment, avec Michel. Donc on s'est dit, partons là-bas, commençons notre sujet là-bas, on verra sur place. Et en fait, on est arrivé au Kurdistan irakien, on est arrivé dans la région de Sinjar. On a vu que le sujet était tellement vaste, tellement complexe, que ce sujet, entre guillemets, se suffisait à lui-même, et qu'en rencontrant cette communauté, donc cette communauté yézidi, qui a été la communauté principalement victime de ce massacre qu'a perpétré l'État islamique, on a voulu justement faire connaître cette communauté, faire connaître ces yézidis, faire connaître leur histoire, leur passé, et parler d'eux, revenir avec leur histoire, alors au travers de ces photos ou de mes vidéos, au travers de notre documentaire qui mélange photos et vidéos, au travers aussi d'un livre, de la même manière, ou d'expositions qu'on a pu faire depuis. qui mélangeaient photos et installations vidéo, mais voilà, de raconter leurs histoires et de faire découvrir un maximum ce qu'ils ont vécu pour que les, bah, pour que juste que les gens se rendent compte en fait de ce qui se passe à l'autre bout du monde et qu'il est important de les découvrir, de les connaître, d'en savoir un petit peu plus. Avec cette idée aussi derrière, mais c'est une espèce d'idéal du documentariste ou de la photographe documentariste ou de l'artiste qui veut faire changer le monde grâce à ses œuvres et donc de ramener, voilà, on revient avec cette espèce d'étendard de « regardez, j'ai fait un film sur les Yézidis, il faut les aider, il faut changer le monde, il faut que leur vie change, etc. » Non, ce film, malheureusement, ne changera jamais la vie des Yézidis, mais elle permettra au moins que les gens ne les oublient pas. Que voilà, que petit à petit, ils ne deviennent pas comme ça une petite communauté qui se réduit comme une peau de chagrin et qu'on les oublie et qu'en fait, plus personne ne se souvienne d'eux. Voilà.
En tout cas, on a hâte parce que oui, il est sorti en 2020, du coup, autant dire en 2021, l'année zéro. Et on a hâte de le voir, vraiment. C'est un genre Naissance des fantômes. Bon, je te pose maintenant une question essentielle. J'aime bien la poser à la fin au lieu d'au début, mais il est flagrant et ce même à travers des projets plus légers comme tes mini-séries humoristiques, dont les bêtises filmiques durant tes voyages dans le monde, que j'adore, mais aussi à travers, on le voyait, hein, ces courts-métrages dont tu parlais, après Charlie Hebdo, j'ai adoré, hein, comme tu disais, cette volonté de sortir dans la rue, de faire quelque chose, sinon on devient fou, folle, clairement. On le sent dans tes petits films, l'un où tu montres un groupe fan de ce groupe punk qui ont perdu une amie et qui mettent des cœurs sur les vitres de ce restaurant pour donner de l'amour. Et quand on voit le public derrière et les passants et passantes, comment ils réagissent, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Ou alors ce magnifique court métrage sur le lavomatique où en fait lavatronique où on se rend compte juste à la fin, je spoil pas, mais du lien de l'actualité vraiment magnifique. Donc on sent dans tous ces projets, certes légers pour certains, beaucoup plus graves pour d'autres, et en apparence légers pour cela, que la caméra, c'est ton mode d'expression, c'est ta façon d'exister et de rendre visible les existences aussi des oubliés et ES aussi. Parle-nous justement, est-ce que tu peux nous parler de cette vision de l'art que tu as, de ton rapport au monde, de ce que c'est de vivre dans la tête d'Alex Lieber, la créatrice de films potentiels. Graphique. Bon, c'est une question qui nécessiterait 3 heures, mais avec des mots simples peut-être.
Ouais, c'est une question impossible. C'est vrai que je me suis toujours dit que c'était la caméra qui était mon outil de prédilection, que c'était un peu mon pinceau d'artiste d'une certaine manière. En fait, je ne le dis plus du tout aujourd'hui. La caméra n'est plus du tout... Je peine aujourd'hui à sortir la caméra de son sac pour aller filmer quelque chose. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'image en mouvement. Donc, c'est un peu pareil, mais ce n'est pas totalement pareil. C'est-à-dire que dans l'absolu, tous les films photographiques que je fais, je ne le fais qu'à travers le montage au travers des photos et des regards des autres. Et moi, j'y amène ma sensibilité, je redonne du mouvement à quelque chose de fixe et je recrée une nouvelle dimension, ce qui permet de nous immerger dans un univers, etc. Enfin, voilà, donc on est dans l'image en mouvement, dans l'immersion, etc. Donc ça, c'est plus ça, moi, qui me fait vivre aujourd'hui. Mais que dire de ce qui se passe dans ma tête? Je pense que dans 5 ans, je dirai encore autre chose, et dans 10 ans, encore autre chose. J'ai envie de créer, j'ai envie de raconter des histoires, ça c'est clair. Et ça, j'ai envie de le faire depuis tellement longtemps. Juste de raconter des histoires, et pas de me raconter des histoires, mais de raconter des histoires aux autres, et que ces histoires, que les gens écoutent ou regardent ces histoires un peu comme nos grands-parents nous racontent une histoire devant les cheminées. Bon, ça fait un peu image d'Épinal, mais d'avoir ce truc un peu enfantin de « waouh, elle est trop bien ton histoire ». Et c'était le cas pour la fiction pendant 10 ans, ça est devenu le cas ensuite pour le documentaire, c'est le cas maintenant aussi pour le film photographique. Mais maintenant, j'ai d'autres projets documentaires, mais j'ai envie de raconter encore de manière différente. Mais j'ai envie que les gens fassent encore « waouh, elle est chouette ton histoire ». Et qui s'en prennent entre guillemets un peu plein la figure, soit en apprenant quelque chose de grave, soit en apprenant quelque chose de drôle, soit en apprenant, enfin voilà, qu'il y a cet effet waouh narratif dans le seul but de vouloir raconter une histoire. Alors après, quels outils je vais utiliser pour raconter ces histoires-là? Je pense que les outils que j'utilise évoluent constamment, soit évoluent d'eux-mêmes, parce que les outils évoluent de l'évolution du monde, des outils, d'Internet, de la puissance de nos ordinateurs, etc. Mais ils évoluent aussi entre eux, ils évoluent aussi de ma manière aussi d'entrevoir ces outils-là évolue aussi. Pourquoi pas, dans 10 ans, je serai en train de sculpter des choses sur un mur, raconter des histoires sur un mur en rajoutant. Il peut y avoir plein de choses, mais je pense que au-delà de la caméra, au-delà même de l'image en mouvement, moi ce que je veux, c'est raconter des histoires. Voilà.
Et ce que je vois, c'est que c'est quand même très différent de ce que tu pouvais faire, comme tu disais, à la sortie de l'université, où parfois on est un peu dans un égo trip, à vouloir raconter ses démons intérieurs. Et ça, je comprends aussi tout à fait, c'est un long chemin. Mais là, tu es dans cette démarche quand même de don aussi, de don et de rencontre. Et ça me fait penser à ce que je lisais hier dans Le Méridien de Paul Celan, quand il dit que la poésie, c'est la rencontre avec l'autre. Et c'est justement d'aller vers l'autre. Et cet élan vital de communiquer avec l'autre et de toucher l'autre. Et lui, c'était par exemple la rencontre avec Heidegger et de lui demander de dire pardon par rapport à tout ce qu'il avait pu dire ou par rapport à son silence pour, bien sûr, la situation terrible de la Seconde Guerre mondiale et ses crimes contre l'humanité. Et toi, on sent que c'est ça aussi. C'est l'objet d'une rencontre, c'est l'objet d'aller vers l'autre et de donner et peut-être aussi de donner des pardons à certaines communautés oubliées. Enfin, c'est quand même cet élan poétique, très politique. Je le ressens aussi dans ton œuvre. Et d'ailleurs, beaucoup de tes œuvres sont extrêmement poétiques dans ce sens-là.
Ouais, je parlerai. Alors moi, je n'utiliserai pas le mot poésie, mais je suis très contente hein, que tu utilises ce mot-là parce que je l'aime beaucoup. Mais
c'est mon prisme.
Voilà, moi, je parlerai plus d'empathie d'une certaine manière. Je rejoins l'empathie à la poésie, c'est-à-dire que l'empathie, que ce soit avec Émilien Feuille ou avec Michel Slomka, c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a partagé des moments, qu'on partage notre vie. C'est parce qu'on se rend compte sur cette empathie, sur cette envie de, à la fois de donner la parole à l'autre et d'essayer de la rendre la plus belle possible, mais et en même temps, comme tu parlais de pardon, et en même temps d'aller vers l'autre en disant je suis désolé, mais c'est pas de ma faute, mais je suis désolé pour tout ce que tu as vécu parce que ce sont des humains comme moi qui ont fait ça, etc. Mais moi je suis pas pareil et moi j'ai envie de faire différemment et j'ai envie de prendre ta parole, de la rendre belle et de la partager aux autres. Enfin voilà, il y a une forme d'échange qui se met en place, qui est politique évidemment, mais qui est au départ très personnel et qui fait qui se résume par ce mot un peu simple qui peut être dangereux dans certains contextes, notamment sur des sujets un peu sombres comme peuvent l'être le génocide, etc. L'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est un moteur de vie qui est compliqué à alimenter, qui est compliqué à réparer aussi. Mais je pense que c'est un moteur de création qui est le mien, en tout cas.
En tout cas, dans cette même veine de rendre justice, d'aller vers l'autre et de dire pardon, tu as collaboré avec Émilie Arfeuille aussi sur ce très beau projet, puisqu'elle travaille beaucoup hein, sur cette thématique, bien sûr, et cet engagement à rendre visible la communauté queer, les corps non-binaires, les personnes trans. Et tu as réalisé donc et monté des fictions documentaires lors de son exposition « Les métamorphoses de Protée ». Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et nous parler de l'importance de cette lutte pour toi ?
Alors, je parlerai difficilement du projet sans elle, parce que les métamorphoses de Protée restent avant tout un projet photographique au départ, qui a été créé par Émilie. Qu'elle a menée à Berlin pendant pas mal de temps, donc elle s'est approchée de différentes communautés à Berlin qui au final se veut être la grande communauté des personnes hors normes, hors cases, marginalisées, etc. de Berlin, mais qui à Berlin n'est pas si marginalisée que ça parce qu'elle est quand même très forte et très visible, mais avec cette envie de réfléchir justement sur l'identité, sur comment l'identité peut au cours d'une vie, au cours de certaines émotions, même de contextes différents, etc., peut se métamorphoser, s'adapter, etc. Et donc est né ce projet assez chouette qui est les métamorphoses de Protée. Et bon, Émilien Feuille, je ne pourrais jamais m'empêcher de travailler à un moment ou un autre sur un de ses projets et justement d'essayer de faire quelque chose, soit avec de la vidéo, soit en redonnant du mouvement à ses photos. Et donc elle avait cette envie au départ dans Métamorphose de Protée d'utiliser des photos différentes, c'est-à-dire qu'elle a croisé et ensuite sympathisé avec un couple, Boris et Maria, qu'elle a photographié pendant pas mal de temps. Beaucoup de photos de la série Les Métamorphoses de Protée sont des séries de ce couple-là. Et donc, la réflexion allait au-delà de l'identité d'une personne ou d'une autre personne, mais aussi de l'identité d'un couple. Cette même identité peut se métamorphoser au fur et à mesure du temps. Et elle avait récupéré, avec leur accord évidemment, toutes leurs photos partagées sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Et ces photos étaient assez folles. Alors, c'est des photos qui viennent de presque n'importe où, de n'importe qui, mais pendant 10 ans, avec des qualités complètement différentes, etc. Mais dans lesquelles on retraçait en fait 10 ans d'une évolution, d'une métamorphose constante, du début jusqu'à la fin, avec cette projection sur, bah, en fait, ça va continuer encore à se métamorphoser, encore à évoluer après. Mais bon, là, il y avait un tenté qui nous invitait à n'utiliser que ces 10 premières années de leur évolution d'identité de couple, on va dire, tout en reprenant l'identité de chaque personne, et donc d'essayer de créer une vidéo à partir de ce matériau assez singulier. Et donc on en a fait, j'en ai fait une vidéo d'installation qui reprend plusieurs techniques de Polaroid, de stop motion, plein de choses, mais qui ont permis de mettre en avant des photos qui, au départ, n'étaient peut-être pas d'une qualité folle, un peu pixelisées, réseaux sociaux, etc., mais qui a permis, enfin en tout cas cette œuvre a essayé de permettre à ce qu'on remette ces photos-là dans une vraie temporalité, et non pas juste sur une temporalité internet qui est un peu obsolète, enfin pas obsolète, mais qui s'efface très rapidement. Mais voilà, de recréer une temporalité autour de ce travail photographique et de le rendre un peu intemporel, justement, voire universel.
En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ce montage, de voir ces évolutions. Et Protée, on le rappelle, dans la mythologie, c'est quand même un dieu qui prend l'apparence de ce qu'il souhaite. Donc c'est un choix. Et ça, c'est important parce que c'est pas comme un caméléon qui se cache, qui fuit, qui se protège. Mais là, c'est justement des personnes qui vont avoir une apparence punk, avec des tatouages, avec des piercings, ou alors un autre style l'année d'après. Et ce sont des choix. Et ça évolue et c'est mouvant. Et donc c'est intéressant aussi de parler, en lien bien sûr avec ton identité. Je me permets de te poser la question, est-ce que toi, tu as dû professionnellement faire un coming out trans? Est-ce que tu as subi des discriminations ces dernières années que tu ne subissais pas avant? Est-ce que c'est en lien avec tes métamorphoses, tes évolutions? Comment est-ce que ça a eu ou pas un impact dans ta vie pro?
Alors, pour le coup, j'ai jamais vraiment mêlé mes sujets de film à ma vie personnelle. Clairement, évidemment, il y a une partie de moi dans toutes mes créations, dans tous mes projets, etc. Mais ça ne parle pas de moi. Ça ne parle pas des sujets qui, moi, me galvanisent ou me font réfléchir ou me perturbent au quotidien. Donc, dans l'évolution de mon identité n'a pas vraiment influé, en tout cas, sur ma manière de voir les choses professionnellement. Ensuite, il y a le fait que quand on est indépendant, indépendante, quand on est artiste, la vie professionnelle et la vie personnelle sont quand même d'une certaine manière intimement liées. On a tendance à sympathiser avec les relations pro et on a tendance à travailler avec toutes nos relations perso. Donc voilà, tout ça se mélange. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de coming out professionnel, il y a eu un coming out global, en fait. Il y avait des gens très proches qui étaient ma famille ou de très proches amis, mais de très proches amis, il y avait aussi des gens avec qui je travaillais. Et puis ensuite, le coming out se fait auprès de personnes, entre guillemets, un peu moins proches, mais très importantes, mais qui sont de la même manière, professionnelles, personnelles ou les deux. Jusqu'au moment où je commençais un peu à en avoir marre de devoir en parler à tout le monde et de répondre un peu toujours aux mêmes questions, etc., qui sont très importantes, parce que j'avais envie de répondre à chaque fois à ces questions-là. Mais petit problème d'énergie, de motivation aussi, et donc l'envie d'être d'attaquer plus globalement le sujet. Et donc j'avais fait une vidéo que j'ai partagée sur les réseaux sociaux où je répondais aux potentielles questions qu'on pouvait se poser sur l'évolution de mon identité, l'évolution de qui j'étais, de comment je m'assumais, comment je m'affirmais aujourd'hui. Et voilà, et au final, tout s'est très bien passé. Donc,
Tant mieux, parce que c'est vrai que je me demandais, dans ce milieu du film photographique, du documentaire, du diaporama sonore, est-ce qu'il est plus ouvert, plus inclusif que celui de la photographie, en écho aux mots d'Hélène Jaillet lors de la conférence de Rennes Pratt à la Altropisme, qui témoignait des inégalités subies. Donc elle parlait justement de ces pourcentages très faibles d'artistes photographes femmes ou identifiés comme femmes dans les rencontres photographiques d'Arles, et que dès qu'elle a parlé, dès qu'elle a osé prendre la parole et prendre position sur ces questions-là d'égalité, eh bien elle a été mise à la marge, elle a été complètement discriminée, notamment par le directeur même des rencontres. Donc est-ce que pour la niche film photographique, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus inclusif? Est-ce que l'accueil est moins violent?
Vu que c'est moi qui ai créé le festival La Nuit Photo, je peux pas m'extraire moi-même du festival, donc je peux dire ce que je veux. Et ça se veut être un festival aussi inclusif, au-delà du film photographique qui est lui-même un médium transmédia. Ce festival lui-même est inclusif et se veut ouvert à toutes, à tous, gratuit, etc. Donc on est déjà dans cette volonté-là. Au-delà du festival Les Nuits Photos, est-ce que moi, ma vie personnelle, mes changements personnels vont influer, vont me faire fermer des portes de tel ou tel truc? J'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, je le ressens pas. Pour l'instant, il n'y a pas de... rien qui m'est tombé dessus, qui me dit « Ah oui, d'accord, bah bon, ok, ça marche. Ah ouais, donc c'est comme ça parce que je suis trans. Ok, bon bah salut. » Et puis, en fait, si c'était le cas, bah tant pis pour eux, en fait. Je veux pas tenter de créer des choses avec des gens qui sont contre ce que je représente. Tout comme, voilà, il y a des festivals qui se veulent encore anti-féministes, machin, des festivals photo. Alors, ils se proclament pas anti-féministes, mais ils sont encore en 2022 avec une programmation faite de 99% de mecs. Bon, bah le message, il est clair, il est honnête. Et c'est des festivals qui vont péricliter et où ils vont se retrouver juste dans un entre-soi patriarcal de vieux blancs adipeux, et puis c'est tout, quoi.
Des catégories très binaires encore.
Oui, ou des catégories très binaires. Après, la société évolue, donc tout évoluera aussi ensuite. Les choses avancent petit à petit. Là, déjà, sur l'équité homme-femme, l'égalité homme-femme, on est loin, de très très loin encore, d'avoir résolu tous les problèmes, en tout cas en France. D'autres problèmes, tout ce qui est problème LGBT, invisibilisation, marginalisation, etc., il y a des choses qui évoluent, en grande partie grâce aux jeunes générations, en grande partie grâce à Internet, aux réseaux sociaux. Les choses, je pense, évoluent beaucoup plus vite qu'il y a quelques dizaines d'années, elles continueront d'évoluer, mais on continuera de toute façon à combattre les choses. Le but est de rester visible, en fait, tout bêtement, et de faire des choses. Moi, c'est un peu mon credo. J'ai cette chance, entre guillemets, d'avoir très très bien vécu mon coming out, de n'avoir eu aucun retour négatif, et d'être plutôt bien dans mes baskets, bien dans ma peau, et de le vivre très simplement et très, vraiment très bien, d'être super bien entouré. Donc en fait, ça me permet de lutter de manière invisible quotidiennement. C'est-à-dire que pour moi, aller chercher son croissant le matin et d'y aller comme je suis, il y a déjà une forme de visibilité au quotidien, de choses qui se passent, d'aller chercher mes chaussures chez le cordonnier, c'est pareil. De la même manière, de créer un festival de films, de le proclamer totalement inclusif, de dire que c'est un festival ouvert aussi ou LGBTQIA+, de créer des projections spéciales sur des thématiques sociétales, notamment une thématique queer, etc. C'est des choses qui pour moi sont importantes et qui favorisent le fait que à l'existence, à la visibilisation et à la démarginalisation petit à petit de personnes qui sont un peu trop dans la souffrance.
En tout cas, je comprends tout à fait ta lassitude de te dire que tu n'as pas à faire de pédagogie sur ce que tu es, puisque déjà ce que tu es, c'est un acte militant en soi. Donc pour terminer, est-ce que tu veux nous parler de projets que tu as pour l'avenir, de tes rêves, de tout ça?
De mes rêves, waouh. Bah écoute, non, je sais pas, on vient d'acheter un camion là avec Émilie qu'on va aménager, donc mon rêve c'est plutôt de faire le tour du monde en camion, ça c'est voilà. Après il faut de l'argent, il faut du temps, il faut de l'énergie. L'énergie, je pense qu'on l'aura. Ça c'est un peu les rêves du moment. Pas trop envie de bosser plus que ça. Après j'ai un nouveau projet de documentaire qui est bizarrement beaucoup plus personnel que ce que je pouvais dire tout à l'heure où je voulais pas travailler sur les choses qui me concernaient trop. Mais en fait ça reste sur les thématiques de la mémoire, mais je suis plus sur la mémoire familiale, sur la transmission familiale, où le but étant de parler de l'histoire de ma famille, de mes origines turques, de savoir d'où on vient et de pourquoi mon grand-père maternel ne nous a absolument rien raconté de tout ça, pourquoi il n'y a eu aucune transmission familiale. Et en fait, je découvre des choses là depuis quelques années qui sont assez chouettes, assez folles. Une histoire qui traverse l'Empire ottoman, donc avant la Turquie moderne, qui traverse aussi la création de la Turquie moderne, les guerres gréco-turques, mais qui passe aussi par Vienne à l'époque de Freud, qui part en Belgique et en Suisse, qui revient à Paris, avenue Foch, dans les plus beaux appartements, etc. Et qui... voilà, apparemment on était ultra riches, on possédait l'une des plus grandes marques de cigarettes d'Europe qui s'appelait Turmac, donc d'origine turque, en Turquie macédoine, fortune qui s'est dilapidée je ne sais de quelle manière, et puis moi je découvre qu'il y a des arrière-grands-pères qui avaient des fils interdits, machin, enfin des trucs, il y a des coffres en Suisse remplis de je ne sais pas quoi, enfin voilà, c'est une histoire folle mais qui est évidemment très très complexe à retracer et très compliqué de trouver un petit fil narratif là-dedans. Donc là je suis vraiment juste en stade d'écriture et en recherche, et vu qu'il n'y a eu aucune transmission familiale dans ma famille, bah, je n'ai rien, donc je pars de rien pour tout trouver, je pars de très peu de traces en fait. Et voilà, donc dans cette volonté de réécrire un peu la mémoire familiale. Et la grande question justement dans ce projet, c'est comment moi je me place, où est-ce que je me place dans cette narration, dans cette... je suis à la fois totalement anti-nombriliste, mais en étant aussi la personne la plus à même d'être la narratrice en fait de cette histoire, vu que c'est moi qui enquête. Donc voilà, j'ai pas encore répondu à cette grande question de où est-ce que je me place dans cette histoire-là. Je pense que quand j'y aurai répondu, potentiellement l'écriture avancera un peu plus rapidement et je pourrai commencer à tourner deux, trois choses. Mais voilà, ça c'est le gros projet documentaire de ces futures années, de ces quelques prochaines années, je pense. Mais après, peu d'envie vraiment de création. Bizarrement, en ce moment, je préfère travailler sur des petits projets, des petits films photographiques, voilà, des petits projets qui amènent des petits contentements d'une certaine manière. Voilà, j'ai besoin, je pense que le confinement n'a pas aidé non plus là-dedans. La période n'est pas si claire que ça, et politiquement, et d'un point de vue mondial, et d'un point de vue écologique. Voilà, je ne sais pas trop comment moi, en tant qu'être humain, où me placer par rapport à tout ça. Donc j'ai besoin de petites choses positives assez régulières, de me dire « Ah, j'ai fini un truc ». Voilà, j'ai besoin de me dire « Tiens, j'ai fini un truc ». Voilà, ce petit côté dopamine créative de « J'ai réussi à finir un film, le film est terminé, les personnes avec qui j'ai bossé sont contentes, donc on a réussi à... » aller à la fin de quelque chose. Mais je me sens pas encore la force de partir sur des projets de plusieurs mois, de plusieurs années. Voilà, on trouvera la force un peu plus tard. Ça vient aussi, je pense, de Sinjar, Naissance des fantômes, qui est un film qui a été très très dur à monter, qui, moi, m'a atteinte, je pense, et physiquement et psychologiquement, parce que j'ai été la seule, enfin, on n'a pas une grosse équipe sur ce film. C'était un film qui était autoproduit, autofinancé. Donc moi, le montage, je l'ai fait presque toute seule pendant 2 ans dans ma petite grotte à Montpellier. Chose que j'aurais pas dû faire, parce que pour le coup, je regrette un peu, mais j'aurais peut-être pu essayer de m'entourer d'un peu plus de personnes pour pas tout me manger dans la gueule toute seule. Et ce film n'étant pas encore sorti, un peu entre guillemets sacrifié sur l'autel du Covid, je déteste absolument cette expression, mais bon, c'est le cas, hein. Le film aujourd'hui ne trouve pas preneur parce que personne n'a envie de l'acheter, aucun vendeur ne veut le prendre parce qu'ils ont déjà leur valise bourrée à craquer de films qui ne sont pas encore sortis. Et puis il faut avouer aussi que sortir de 2 ans de confinement avec un contexte de guerre en Ukraine, de machin, etc., peu de gens ont envie de voir un long métrage sur le génocide yézidi au Kurdistan irakien. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir donné tellement pour ce film et que ce film ne trouve pas encore sa place. Donc ça me pèse un petit peu, on va dire, et donc ça m'empêche, je pense, aussi de m'engager sur des projets tout aussi intenses et lourds à porter.
En tout cas, on voit qu'après avoir fait tous ces voyages à l'extérieur, d'avoir raconté toutes ces histoires extérieures, tu vas t'engager aussi dans un joli voyage intérieur intense. Et on te souhaite le meilleur, vraiment. Merci beaucoup Alex Lieber pour ta présence, pour ce partage. Merci pour tout ça. Et puis à bientôt.
Bah, merci à toi. J'aime beaucoup ce genre d'exercice un peu introspectif où on n'a rien à préparer, on se doit de parler de nous à un moment T, même si on parle de nous dans l'absolu, et c'est assez chouette.
Trop
Donc,
bien.
merci beaucoup.
Merci à toi.